Jeudi à partir de 13h sur Mayuri Campus dans les Experts Mayuri, un rendez-vous sur les grandes questions de société qui nous, qui vous concernent en Guyane. L'éducation, le pass sanitaire, l'immigration, près d'une heure de débat sans langue de bois, en vidéo sur les réseaux sociaux et en radio sur Cayenne et Saint-Laurent-du-Maroni. Je compte sur vous, à bientôt. Avec les questions de votre quotidien, les sujets du moment. Aujourd'hui, nos deux experts du jour, Dr Guillaume Michel, responsable du centre de vaccination du CHC, et Dr Roland Belloni, président fondateur de la pirogue humanitaire, répondront à l'interrogation du jour et du moment. Le pass sanitaire est-il la condition sine qua non pour un retour à la vie normale, bien sûr, normale à prendre et à mettre entre guillemets. Merci aux auditeurs qui nous suivent et aux internautes sur nos réseaux. Ce n'est pas BFM TV, cependant. Docteur Richer, plus sérieusement, qu'en est-il de l'activité au centre de vaccination et surtout du moral des personnels?
Bon, bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Vous posez un bon constat. Et je pense que la réponse est un peu dans l'intonation de votre question sur le centre de vaccination. Donc l'activité du centre de vaccination est au plus bas depuis le début de la campagne de vaccination. Donc, hier, je prenais l'exemple de la réunion qu'on a avec les équipes en prévision de la journée. On était à 66 personnes qui étaient inscrites sur les listes pour la vaccination, alors que le centre est taillé pour en faire entre 600 et 700 par journée. Donc le moral des troupes reste bon. Mais on a l'impression des fois d'être un petit peu seul dans cette campagne de vaccination.
Merci beaucoup. Avant de vous poser la question décisive, je vais me tourner vers vous, docteur Belloni. Docteur Belloni, je vais vous poser à vous la première question. Selon vous, pourquoi le pass sanitaire et donc la vaccination contre le Covid-19 n'est pas la seule clé à un retour à une vie quasi normal.
Alors, attention, vous avez dit le pass sanitaire et la vaccination. Le pass sanitaire, ce n'est pas uniquement la vaccination.
Oui, c'est pour ça que j'ai dit le pass sanitaire et donc la vaccination, puisqu'il fait partie du pass sanitaire.
Je répète, il n'y a pas le donc. Il faut l'enlever le donc. Et seulement. Parce que le donc, ça voudrait dire que qui dit pass sanitaire, dit vaccination. Or, le pass sanitaire, ce n'est pas que la vaccination, donc, c'est à la fois la vaccination, le test de 72 heures et avoir fait la maladie pendant 6 mois.
Sur une durée de 6 mois, effectivement.
Trois possibilités.
Donc si vous préférez, et.
Oui, et. Cela dit, si vous me dites pass sanitaire, est-il indispensable, nécessaire? Je vous réponds, il faut vivre avec la situation, c'est-à-dire une situation de crise sanitaire, avec une pandémie. Donc, on n'est pas en situation normale. Donc par définition, vous n'allez pas avoir une activité normale dans une situation anormale. Alors, si j'avais à répondre d'emblée, oui, le pass sanitaire est nécessaire. À condition de lever le confinement. Parce qu'avec le pass sanitaire, vous avez la possibilité de contrôler trois choses. La situation vaccinale, bien sûr. Est-ce que les gens qui vont fréquenter des milieux où la transmission du virus est facile et par rapport aux proximités, par rapport à la masse de population, c'est le test. Et puis, les gens qui sont là, est-ce qu'ils sont protégés parce qu'ils ont fait la maladie? Effectivement, quand on fait la maladie, et qu'on a résisté à la maladie, qu'on est soit asymptomatique ou symptomatique, oui, on a des anticorps, donc on est protégé pendant 6 mois.
Docteur Richer?
Non, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, hein, en particulier la précision. Alors, moi, je ne dirais même pas « et » pour les conditions, je dirais « ou », puisque c'est au choix. Mon propos, peut-être sur la suite de notre échange, sera plutôt tourné sur l'aspect vaccinal, en fait, du pass sanitaire. Mais effectivement, voilà, le pass sanitaire, c'est plusieurs éléments. Et pour peut-être recontextualiser aussi cette discussion qu'on a aujourd'hui, peut-être rappeler les chiffres qui sont tombés il y a quelques instants, là, transmis par la préfecture et l'ARS. Donc on a un taux d'incidence qui dépasse désormais les 500 cas pour 100 000 habitants. Et pour faire un point sur la vaccination, donc on est à peu près en ce moment à 30% de personnes vaccinées sur la Guyane.
Qu'est-ce qu'on peut dire sur des incidents comme ceux qui ont été connus ou ce qu'ont vécu hier les personnels soignants et qui pratiquent la vaccination, notamment sur Saint-Laurent-du-Maroni, sur l'Ouest?
Alors, vous prenez cet exemple-là qui est vraiment dramatique. Il y en a d'autres aussi, hein. Il y a ce qui s'est passé en début de semaine avec la Croix-Rouge qui a dû quitter un stand de vaccination mobile qui était basé à côté d'un squat informel. C'est difficile à vivre, en fait, pour les soignants qui s'engagent dans la campagne de vaccination. Je ne veux pas parler au nom des soignants, dans le terme général des soignants, mais il y a quand même un certain nombre de soignants qui sont engagés dans la campagne de vaccination en Guyane, pour les Guyanais, depuis maintenant plusieurs mois. Et c'est vrai que ces soignants-là, ils ne comprennent pas vraiment cette défiance, cette méfiance, et souvent aussi l'absence de réaction des différents autorités politiques et publiques sur justement ces incidents. Un autre exemple, c'est aussi ce qu'on est susceptible de rencontrer, ce qu'on rencontre au centre de vaccination en ce moment, c'est qu'on a affaire à des gens qui se sentent oppressés, pour des raisons que je peux tout à fait comprendre, qui se présentent donc au centre avec la sensation d'être contraint. Et il y a forcément un petit peu de tension, quelquefois, quand on explique qu'il vaut mieux faire un schéma, une dose, en fonction des certificats présentés, on s'oriente vers un schéma à deux doses, qu'il faudra envisager pour des patients qui sont très fragiles et qui sont porteurs de comorbidité, peut-être un rappel, dans la limite évidemment des recommandations. C'est vrai qu'on a quelquefois des difficultés à avoir un échange cordial. Mais bon, on prend sur nous et on essaie quand même de faire passer les messages avec le plus de pédagogie possible.
Merci d'avoir anticipé sur les prochaines questions. Justement, peut-être que Dr Belloni voudra répondre. On va en parler du positionnement de la réponse des pouvoirs publics et des personnalités politiques. Est-ce que vous pensez qu'il y a en effet une sorte de complaisance de ces pouvoirs publics en vue d'un positionnement quant aux prochaines échéances électorales? Et que c'est pour ça qu'il y a cette espèce de mutisme.
Vous attendez de moi de prendre une position politique sur une situation qui est une situation sanitaire, ou alors que vous puissiez me dire qu'il s'agit d'une situation à la fois politique et sanitaire. Alors je vais vous répondre par un seul mot. Vaccine et à côté nation. Dans ce mot-là, il y a deux mots. La partie vaccin, c'est la partie purement médicale. Et la partie nation, donc vaccination, c'est la partie politique. Ça veut dire qu'en fait, on répond à une situation sanitaire de façon médicale, bien sûr, et aussi de façon politique. Alors pour répondre à votre question, probablement, il y a un sous-entendu politique. C'était difficile, ma réponse?
Non, pas du tout.
Non, je la comprends, et j'ajouterai même un élément, parce que j'ai eu l'occasion de faire mon travail de thèse aussi sur la place des professionnels de santé dans la décision publique, et on se confronte là à une situation qui est de plus en plus récurrente, à savoir quelle est la parole de l'expert dans la décision publique. Et la parole de l'expert peut être décrédibilisée, et on a vu ça assez souvent dans les médias, surtout pendant cette crise sanitaire, en particulier quand il y a des politiques qui ont la double casquette de professionnels de santé et d'experts, où là, on ne sait pas qu'est-ce qui prend le dessus quand ils s'expriment. Est-ce que c'est leur casquette de personnalité sanitaire assermentée, serment d'Hippocrate, serment de Galien, ou alors de personnalité engagée dans une démarche politique, auquel cas ça peut créer une espèce de confusion. Donc je suis assez d'accord avec le fait qu'il fasse bien faire la différence et la nuance entre la problématique sanitaire et la problématique politique. C'est deux choses différentes, complémentaires actuellement, mais différentes.
Complémentaire, mais avec quelque chose de dangereux, c'est qu'il ne faut pas être schizo. C'est-à-dire, à ce moment-là, il faut bien savoir Je pense que le sanitaire devrait passer d'abord et le politique après. Mais quand vous avez une décision politique et que vous avez un engagement politique et que vous allez privilégier la politique par rapport à la santé, alors là c'est dangereux. Alors ça voudrait dire simplement qu'il faut que les hommes de l'art, c'est-à-dire à la fois les hommes qui maîtrisent le sanitaire, s'occupent du sanitaire. Et les politiques s'occupent de la politique. Et à ce moment-là, il y a un consensus entre la politique et la décision de santé. On nous a dit qu'on était en situation de guerre, on est dans une crise sanitaire. Donc c'est là que la notion politique intervient. Et quand je dirais la notion politique, c'est la notion des comorbidités qui vont, même plus que ça, des effets collatéraux que les politiques vont prendre et que nous, en tant que médicaux et experts, nous n'allons pas accepter. Par exemple, si vous confinez de façon permanente et tout le temps, vous allez avoir des effets collatéraux. C'est-à-dire qu'il y aura des dépressions, il y aura des problèmes économiques et qui vont retourner encore dans un schéma politique, médical avec des dépressions. Donc il faut bien toucher, on est dans un système où il y a un équilibre instable. Et je pense que la préférence doit aller vers le médical.
Oui, mais en fait, vous l'avez dit, on parle de défiance de la parole de l'expert, je reprends vos propos. Hein. On parle quand même d'entrave de l'action de santé publique, mais il y a quand même une absence de réaction. Donc est-ce que, en fait, aujourd'hui, les pouvoirs publics ne sont là que pour appliquer des mesures, être dans la répression, mais ne peuvent pas, en fait, défendre l'action de l'expert, l'action pour la santé publique et pour le bien commun?
Alors, le problème, il est toujours le même en Guyane. Vous allez avoir des gens, souvent, qui n'arrivent pas à se décentrer. Quand j'ai dit se décentrer, ça veut dire qu'ils vont prendre une décision administrative, parfois politique, mais elle est plutôt administrative, dans une population qu'ils ne connaissent pas. C'est-à-dire qu'on n'est pas en Picardie ici, on est en Amazonie. On a un pays pluriculturel. Hein, des gens pourront vous dire qu'ils ne veulent pas se faire vacciner parce que c'est une potion maléfique. Donc il faut faire de la pédagogie. Donc il faut rentrer dans la culture de l'autre, se décentrer par rapport à sa culture si on vient de l'extérieur, et qu'on a un message, une feuille de route où il fallait appliquer. Et c'est là qu'il y a cette notion de conflit entre les gens qui veulent. Vous l'avez dit justement tout à l'heure, les gens sont persuadés qu'ils sont contraints de se faire vacciner. Or, la vaccination, je vais vous dire, parce que on me fait passer pour un anti-vaccin, je ne suis pas anti-vaccin. Comment voulez-vous qu'un médecin soit contre la vaccination? Mais à présent, il y a plusieurs types de vaccination. Je suis pour une certaine vaccination et laissez les gens choisir à condition que vous leur ayez d'autres, que vous ayez fait de la pédagogie et leur expliquer les bienfaits de la vaccination, les contre-indications de la vaccination. Je suis contre le tout vaccin. Je dirais même, j'extrapole, le tout vaccin m'interroge sur la notion de variant. Donc je pense qu'il faut vacciner les gens qui ont des comorbidités, qui ont plus de 65 ans. D'ailleurs, j'ai vu dans les rapports que les plus de 75 ans étaient moins vaccinés qu'entre les 64 et les 65. C'est les gens de plus de 75 ans qui doivent être vaccinés avec des comorbidités. J'ai apporté des chiffres que à partir des travaux que nous avons réalisés, je ne sais pas si je les ai là, sur les gangans. Ici, vous prenez n'importe qui a plus de 65 ans, 70 ans, a soit une hypertension artérielle, soit un diabète, soit une obésité. Et pour le peu qu'ils aient les trois, ceux-là, qui ont plus de 65 ans, s'ils sont hypertendus, diabétiques, obèses, il faut les vacciner. C'est clair. Donc on ne vaccine pas tout le monde. Ça, c'est la première chose. Quel type de vaccin? Il y a quatre types de vaccins. Il y a les vaccins antiviraux. Ça veut dire que vous avez le virus atténué, voire tué. Ça, on connaît. C'est ce qu'on a reçu pour la fièvre jaune. Ce vaccin-là, c'est le vaccin chinois. Donc, Sinopharm ou Sinovac, Sputnik, ça ce sont les antiviraux. Vous avez des vaccins qui sont les vecteurs viraux, c'est donc AstraZeneca, c'est-à-dire que c'est un ADN, un virus ADN ou ARN, chimpanzé ou humain, ça c'est le deuxième type. Et vous avez les troisièmes, donc les ARN messagers, Pfizer et Moderna. Puis le quatrième, qui est ce sont des protéines. Donc si vous aviez laissé les gens le choix de la vaccination, je suis sûr, en leur expliquant tout ça, vous allez avoir plus de gens qui vont se faire vacciner. Mais comme le choix a été fait sans la population, et qui n'a pas le choix, il se sent contraint de se faire vacciner, à ce moment-là, vous avez une opposition qui est parfois une opposition systématique. En plus, on est dans un pays d'outre-mer. C'est-à-dire que ça vient de la métropole, c'est comme ça de la métropole, on n'en veut pas. D'accord ? Et après, nos médecines traditionnelles, il ne faut pas les oublier.
On va y revenir à la médecine traditionnelle. Je vais aussi vous poser une question sur la notion d'héritage. Est-ce que vous pensez qu'il y a aussi un héritage, un bagage peut-être historique qui renforce cette défiance justement envers cette imposition d'un choix qui vient justement de la métropole. Mais avant ça, docteur Richard, est-ce que vous êtes d'accord sur le fait de cette absence de choix qui renforcerait la méfiance de la population?
Alors, je ne sais pas si c'est le seul facteur qui expliquerait en soi la méfiance de la population, même si on peut peut-être comprendre, en se mettant dans la peau des patients, que quand il y a un vaccin unique qui arrive et quand on entend parler d'autres vaccins, on peut se poser la question, pourquoi il y a celui-là, pourquoi il n'y a pas les autres. Mais je vais vraiment revenir sur ce que Dr Belloni a dit, parce que je trouve ça extrêmement intéressant, et pour le coup, ça fait une association pertinente, parce que là, on a décliné les différents types de vaccins qui sont à notre disposition aujourd'hui sur le marché mondial, si je vois large, des vaccins qui sont issus du génie biologique, donc d'années et d'années de perfectionnement, de recherche et de travail de nombreux scientifiques. Et on a aussi parlé, mais vous voulez en parler tout à l'heure, mais je vais en reparler maintenant, de la pharmacopée. La pharmacopée, moi je suis absolument contre les gens qui opposent la pharmacopée, traditionnelle en l'occurrence, à la médecine moderne. Avec par exemple les exemples du génie biologique qu'on a évoqué. La pharmacopée, qu'est-ce qu'il y a dans la pharmacopée? C'est les plantes. Dans les plantes, il y a quoi? Il y a des substances actives. C'est ces mêmes substances actives qu'on utilise pour faire des médicaments. Donc, il n'y a pas lieu d'opposer la pharmacopée traditionnelle à cette médecine occidentale. Il n'y a vraiment pas lieu de les opposer. Ça peut même être dans une certaine mesure complémentaire. On peut très bien prendre son vaccin et pour éviter la petite douleur ou les petites raideurs qu'on peut ressentir après une injection, on peut aussi accompagner ça de spécialités pharmaceutiques locales. Moi, je n'ai pas encore la maîtrise de la pharmacopée guyanaise et j'aimerais bien, sur les mois à venir, si... on arrive à conclure rapidement cette campagne de vaccination, me pencher sur le sujet parce que ça m'intéresse. Mais voilà, je voulais vraiment pas laisser passer cette occasion de dire qu'il faut surtout pas opposer le traditionnel aux nouvelles actualités scientifiques sur le développement de produits.
Je suis très heureux et très content d'entendre votre discours, puisque vous êtes le responsable de la vaccination. Vous ne pouvez pas dans un pays qui est à l'occasion un pays amazonien avec tout un passé culturel de sa tradition pharmacopée et médicale, et vous allez dans n'importe quel cours dans la ville de Cayenne et même autour de Cayenne, vous allez avoir toute une série de plantes médicinales qui sont dans les journaux. Et dans le temps, effectivement, où nous avions très peu l'occasion d'accéder à la pharmacopée moderne, et vous l'avez rappelé, que la pharmacopée moderne est issue donc forcément de ces plantes. Je rappelle pour le palu, le quinine est sorti de quinquina, qui est un art tout proche. Donc d'ailleurs, il y a toutes ces philosophies chinoises, qui vous le yin et le yang, là où il y a la maladie, à côté il y a le traitement. Et tous les traitements qui ont été trouvés pour les maladies importantes sont trouvés dans l'environnement de la maladie. Donc vous ne pouvez pas dissocier l'environnement à la fois culturel et géographique de l'individu. Et c'est là que le bât blesse. Et c'est pour ça que je dis que c'est cette rupture qu'il y a entre ce qui est imposé de l'extérieur et qui ne tient pas compte de ce qui existe dans le pays. Et c'est là qu'il y a la faille. Et cette faille-là doit être comblé par de la pédagogie, par de l'explication, et à ce moment-là, vous verrez que vous pourrez vacciner plus de monde.
Et croyez-moi, c'est la majeure partie du temps que l'on passe au centre de vaccination, c'est effectivement de revenir sur certaines fake news que les gens entendent et certains a priori qu'on peut avoir sur le mode de fonctionnement des uns et des autres. Donc ce travail de pédagogie-là, on le fait, on essaie de l'approfondir et on continuera à le faire.
Est-ce qu'il fonctionne, ce travail?
Oui, il fonctionne. Oui, il fonctionne parce qu'on a des gens qui arrivent, qui se présentent au centre de vaccination et qui viennent pour poser quelques questions sans avoir forcément l'idée derrière de se faire vacciner le jour même. Donc c'est vrai qu'en discutant, en prenant le temps de discuter avec eux, en particulier chez des sujets, typiquement on parlait des comorbidités tout à l'heure, une des questions récurrentes que j'ai sur les comorbidités, c'est vis-à-vis de l'asthme. Les gens qui ont peur de prendre le vaccin parce qu'ils sont soumis à des crises d'asthme. Donc effectivement, bah oui, l'asthme, c'est une maladie qui touche l'arbre bronchique. Le virus, il touche également l'arbre bronchique, donc il vaut mieux essayer dans la mesure du possible de se préserver de l'un quand on ne peut pas vraiment lutter contre l'autre.
Selon vous, pourquoi, alors que on est dans la situation actuelle en Guyane, hein, on dit qu'il faut à peu près, enfin de ce qu'on a observé jusqu'à maintenant, jusqu'à 4 semaines pour que la situation qu'on a observée en métropole arrive en Guyane. Aujourd'hui, on le constate, alors qu'aujourd'hui, on est dans une situation où, comme vous l'avez dit, on est arrivé à un taux de 500 cas pour 100 000 habitants. Pour autant, le nombre de personnes qui se font vacciner est toujours très, très, très bas. Donc, il n'y a pas vraiment de rebond. En France, enfin en France métropolitaine, en France hexagonale, on arrive à 90% du nombre de personnes vaccinées, n'est-ce pas ? Ce n'est pas, on va dire, un exemple. Ce n'est toujours pas un exemple. Les Guyanais sont toujours réfractaires à la vaccination et indifférents au pass sanitaire.
Alors, je ne sais pas si c'est si on doit prendre exemple sur... sur ce qui se fait ailleurs, quand on va dire la sociologie n'est pas forcément la même, mais je vais prendre du coup un autre exemple que celui de l'Hexagone. Je l'ai lu ce matin, la Norvège. La Norvège qui a dépassé son taux de vaccination, son taux de couverture vaccinale de 90% et qui a décidé de supprimer toutes les mesures de confinement, de restriction, de passe sanitaire parce qu'ils ont estimé, en connaissance de cause, qu'ils avaient suffisamment de personnes immunisées pour pouvoir se permettre maintenant de retourner à une vie un peu plus classique et ça, on en a tous envie, je pense.
On est en train d'aborder le sujet de l'immunité globale. Je crois que de mes lectures, l'immunité globale aujourd'hui n'est qu'une
utopie.
Non, pas utopie, c'est un chiffre qui sont des valeurs théoriques. Pourquoi? Parce qu'en fait, on confond l'immunité innée et l'immunité acquise. Dans l'immunité aujourd'hui, par la vaccination, c'est une immunité acquise. Alors que dans votre immunité innée, vous allez la faire pas directement par la maladie. Or, effectivement, quand vous allez, je ne veux pas dire qu'il faille laisser tout le monde se faire attraper la maladie.
Contaminer, oui.
C'est bien pour ça que je ne suis pas pour le tout vaccin. C'est pour la vaccination des gens à risque. D'ailleurs, on devrait, des 250 décès, tirer le profil à travers les statistiques de qui meurt. D'accord ? Il y a probablement une grande partie de ce qu'on sait déjà, des personnes âgées, des personnes qui ont les comorbidités les plus nombreuses associées, je dis, obésité, hypertension, diabète, parfois certaines asthmatiques, maladies cardiovasculaires. Et je reste persuadé que dans toutes les épidémies, il y a toujours les socio-économiquement faibles. Ces gens qui n'ont pas accès aux soins, les gens qui n'ont pas, qui mangent pas tous les jours, les gens qui n'ont pas accès à l'eau potable, les gens qui dorment dans un KGB, ils sont 50 dedans. Donc c'est ça qu'il faut trouver. Une fois que vous aurez trouvé ce profil-là, vous vaccinez tous ces gens-là. Ça, c'est la première chose. Et je reste persuadé que l'une des solutions, je n'ai pas dit c'est la solution, c'est ce qu'on appellerait le dépistage actif. C'est-à-dire, je ne viens pas, je dis bien, venez vous faire vacciner parce que vous avez un contact, venez vous faire vacciner parce que vous avez des symptômes. Non. J'ai ce profil-là, et à partir de ce profil-là, je sais que dans cette région-là, il y a énormément de gens de ce profil-là, je fais des tests massifs. Donc, je vais soulever des clusters. Et à ce moment-là, j'isole les clusters. Et tous les gens qui ont des signes symptomatiques, je traite. Ça veut dire qu'il y a un schéma que je pense qu'il faille respecter, c'est tester massivement, ce que j'appellerais les tests actifs, tracer, isoler, traiter, on oublie ça, vacciner. Si vous avez ce schéma-là, vous avez de fortes chances de réduire la circulation du virus. Donc, c'est pas fait. Raison. Pourquoi ? Je me pose des questions.
Oui, donc en fait, vous ne comprenez pas le pourquoi de l'abandon de l'isolement localisé qui se faisait notamment l'année dernière qu'on a connu et qui ne se fait plus.
L'isolement.
L'isolement de certains quartiers, notamment.
Oui, non, je ne suis pas. Il y a un classeur, vous l'isolez.
Mais qu'il ne se fait plus, qu'on n'observe plus.
Je pense qu'il faille mettre en place ce qu'on appellerait des brigades. Des brigades épidémiologiques ou des brigades de sanitaires. À ce moment-là, ces brigades sanitaires doivent comprendre, doivent être en relation, bien sûr, avec l'hôpital. Donc des unités mobiles de Covid, si je veux dire, avec une infirmière, un médecin, un kiné et une aide familiale, vous avez cette équipe-là. Et tous les gens, au lieu d'engorger l'hôpital, tous ces gens-là vont prendre en charge à domicile, les patients, ce qui va déjà soulager l'hospitalisation avec des respirateurs, parce qu'on sait très bien que l'atteinte principale, c'est l'atteinte pulmonaire, et à ce moment-là, vous avez déjà désengorgé l'hôpital. C'est ça qu'il faut mettre en place. Ça, c'est la première des choses. Okay ? Faut-il traiter ? C'est ça le problème. Alors, j'ai cru comprendre qu'à Tahiti, on a arrêté un médecin, je ne sais pas si c'est une fake news, si c'est une réalité, parce qu'il traitait avec l'ivermectine et le plaquenil. Moi, je pense qu'aujourd'hui, dans les SAMU, dans les grands centres, on a une fiche technique. On sait, voilà, on va faire tel bilan, notamment le bilan des thromboses. Hein. Donc, le premier truc qu'il faut regarder, c'est les dédimères, pour savoir s'il n'y a pas un problème de coagulation, les gens, d'embolie. D'accord ? Donc, c'est ça qu'il faut faire. Donc, il faut avoir... Je pense que ça doit se faire à Cayenne, à l'hôpital de Cayenne, je n'ai rien inventé. Donc avoir une fiche sur la biologie, une fiche sur la thérapie et une équipe mobile en relation avec l'équipe hospitalière. Et vous avez déjà allégé l'hospitalisation en facilitant l'hôpital à domicile.
On en revient brièvement à la politique. Je sais que vous allez me dire que vous auriez préféré qu'on fasse bien la séparation des deux. Mais c'est pour venir justement à un événement marquant du week-end. Que pensez-vous de la polémique sur la prise de position, ou du moins, on va dire, l'absence de prise de position des personnalités politiques? On en a parlé. Mais c'est surtout suite aux interventions de Christiane Taubira. D'ailleurs, votre confrère, docteur Epelboin, qui n'a pas pu répondre à notre invitation aujourd'hui, suite à sa réponse hier dans un autre média.
C'est vrai qu'on a été assez sollicité pour prendre la parole sur les déclarations de Madame Taubira. Et là, je vais quand même le dire parce que ça m'a un peu marqué. J'ai été assez surpris du traitement médiatique qui a été infligé à ces déclarations parce que, évidemment que moi, dans l'idéal, j'aimerais que les responsables élus puissent parler un peu plus. Je dis pas qu'il faut parler systématiquement de la vaccination, mais il y a un juste milieu entre en parler tout le temps et ne jamais en parler. Et là, on est plutôt du côté du jamais que du côté du tout le temps, en ce qui concerne les responsables élus en Guyane. Ensuite, sur les propos, on parlait de pédagogie tout à l'heure. La pédagogie sur cette question de vaccin, cette question de vaccination, surtout en Guyane, c'est de parler notamment et de lutter contre ce qui est avancé de la part de certaines sources qui sont des sources totalement fallacieuses. Et Madame Taubira, si je ne me trompe pas, a qualifié l'ensemble des personnes qui répandaient ces fausses informations d'imbécilité.
C'est les arguments.
Qui étaient des imbécilités. Donc, il y a des médias quand même qui, surtout dans l'Hexagone, ont fait de beaux titres en disant que Madame Taubira s'était positionnée contre la vaccination en Guyane. Je pense qu'il faut aussi rétablir la vérité. Elle a dit elle-même qu'elle était vaccinée. Donc, Madame Taubira est vaccinée, pour ceux qui en doutent. Ça vaut le coup de recontextualiser, de ne pas se centrer sur qu'est-ce qu'un média a bien pu prendre une interview pour vendre du papier.
Mais du coup, vous regrettez le manque de positionnement des personnalités politiques?
Oui, ça je le regrette, ça, je l'assume
fortement.
Totalement.
Est-ce que vous pensez que si il y avait vraiment une promotion, entre guillemets, même si le mot promotion est bien trop fort, s'il y avait quand même une présence... dans le débat, une levée de ce débat dans le paysage politique guyanais, ça incitera un petit peu plus la population à se prononcer?
Probablement, et ça aurait le mérite en fait de faire aboutir et de mettre sur la table certains sujets quant aux informations, et je mets informations entre guillemets, mais plutôt aux rumeurs qui circulent sur la vaccination. Donc oui, je pense qu'effectivement, ça serait intéressant qu'on puisse, enfin que ce débat-là, non pas tenu par nous les soignants, parce qu'en ce moment, vous comprendrez qu'on a autre chose à faire, au moins on puisse avoir des gens qui soient capables d'en discuter assez sereinement et ouvertement avec nous, avec la population, avec les autorités compétentes. Oui.
Docteur Belloni.
Je suis en parfaite harmonie avec ce qu'a dit Madame Kabira, pour vous dire tout simplement qu'avant qu'elle se fasse vacciner, elle m'a consulté. D'accord ? Donc je lui ai donné tous les éléments et je lui ai dit en fonction des éléments tu prendras ton choix. Elle a fait le choix de se faire vacciner parce qu'elle avait les éléments qui lui permettent de dire je peux me faire vacciner. Ça c'est la première chose. On ne peut pas demander à un politique de faire la promotion de la santé. La promotion de la santé doit se faire par le corps médical. Le corps médical et par la pédagogie. D'accord ? Et c'est pour ça que je dis quand vous demandez à un politique de faire la promotion, de parler de santé, il fera mal. Quand vous demandez à un médecin de faire de la politique, j'ai essayé de faire de la politique, je l'ai fait mal, j'ai pété. Donc probablement, je vais rester dans mon cadre. D'accord ? À présent, quand un politique prend une décision et qu'il va dire, voilà, je vais faire la promotion, à condition qu'il ait son expert et qu'il rapporte les conclusions de son expert et de ses experts, de son équipe, à ce moment-là, il ne parle pas en tant que politique, mais il va rapporter la parole de ces experts, c'est-à-dire la parole de la santé. La santé doit être gérée par les hommes de l'art et la politique par les hommes qui font de la politique.
Donc le problème en Guyane, c'est le manque d'expertise, enfin le problème des pouvoirs publics et de l'action publique en Guyane, c'est le manque d'expertise en santé publique.
Alors justement, les experts en santé publique et les experts en médecine, parce que la santé publique, attention, vous avez dans la santé, vous avez des gens qui sont dans plusieurs catégories. Mmh. Aujourd'hui, on est géré par des épidémiologistes. Ce n'est pas suffisant. Un épidémiologiste ne voit pas de malade. Il étudie les dossiers, il étudie les statistiques, il étudie le mouvement, l'organisation dans la santé. Un urgentiste voit les gens qui arrivent en réanimation. On a oublié la première partie. Et les hommes de terrain, les généralistes, les spécialistes qui sont ou soit en médecine privée, ou soit sur le terrain. On ne leur a pas donné la parole.
Ou des responsables de centres de vaccination.
On est sur le terrain aussi.
On est les gens de vaccination. Donc, c'est ces gens-là qui doivent apporter l'information et avoir un consensus de ces différents regards pour pouvoir appliquer ce qui est adapté et qui tient compte à la fois de la santé publique. Et la santé publique, c'est aussi le mode de vie et la culture des gens.
Juste sur ce point-là, je voudrais rajouter une remarque, c'est que effectivement, dans l'absolu, chacun devrait rester dans son domaine de compétences, d'expertise, effectivement. Toutefois, je reviens sur mon sujet au niveau de la vaccination. On a vu des politiques en Guyane, récemment élus, dire oui, il faut pratiquer la promotion des gestes barrières, oui, il faut pratiquer, il faut faire attention dans les gestes, dans les rassemblements de la vie de tous les jours. Ça reste un petit peu de la santé publique quand même, mais à chaque fois, il manquait le mot, si possible, voire aller consulter son médecin ou demander son avis à son pharmacien pour envisager une vaccination. Et moi, ce qui me gêne, c'est cette partie-là qui est toujours absente.
C'est de recrédibiliser l'action et la parole de l'expert.
Je vais apporter juste un mémoire de ce que vous venez de dire. Quand vous parlez de gestes barrières, vous parlez donc de porter un masque, de se laver les mains, de la distanciation. On est dans une organisation sociale qui fait partie de la santé publique. Et quand vous parlez de vaccination ou de traitement, vous êtes dans le médical. Et là, c'est différent. Et là, le politique ne peut pas intervenir. Il va intervenir dans ce qui est sociétal, c'est-à-dire dans la santé publique, et dans l'art même, la pratique et la pratique quotidienne du médical, c'est réservé à ceux qui ont fait des études pour ça, au médical.
Donc, je voulais en venir à l'événement du week-end et du début de semaine. Et justement, qu'attendez-vous de cet événement, donc de la visite du ministre des Outre-mer, concernant justement l'application de ce pass sanitaire, qui est le sujet de votre expertise aujourd'hui, mais également des autres sujets que nous avons abordés.
Vis-à-vis de la visite d'un ministre, c'est toujours intéressant de savoir ce qu'il va dire, d'autant plus que je suppose qu'il a pris la température largement en amont de qu'est-ce qui se passait en Guyane, de la situation épidémiologique en Guyane, et que peut-être qu'il va y avoir besoin de mesures d'accompagnement. Mais ça, je vous avoue, c'est compliqué d'anticiper sur ce que va dire le ministre avant qu'il ne l'ait dit. Donc, moi, je serai très attentif aux annonces qu'il est susceptible de faire, d'autant plus que nous, pas en manque de reconnaissance, mais on cherche quand même à avoir une visibilité qu'on n'a pas, à mon goût, à mon sens, suffisamment aujourd'hui.
Donc vous attendez quand même une reconnaissance.
Tout à fait.
J'ai peut-être l'avantage d'avoir sur mon collègue un peu plus d'années. Donc j'ai l'habitude des ministres qui viennent. On ne va pas aller très loin. On va prendre celui qui a pris un avion pour venir juste, qui est le Premier ministre, en pleine crise, avec le ministre de la Santé, avec le ministre de l'Outre-mer. Dites-moi ce qui s'est passé depuis les annonces jusqu'à aujourd'hui. On est toujours dans la même situation. Alors qu'est-ce que j'attends du ministre? Qu'il fasse une observation. Il la fera, parce que c'est son job. Est-ce qu'il va apporter des mesures? S'il veut vraiment apporter des mesures, il écoute notre émission. Je suis peut-être prétentieux.
Ce à quoi je rajouterai qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années.
Bien sûr, monsieur.
Vous n'attendez pas d'annonce. Aucun d'entre vous ne m'a parlé d'annonce.
Que l'annonce qu'il faut faire, parce que les autres ont fait des annonces, on n'a pas abouti. Donc ce qu'il faut, il vient s'enrichir de la situation. Et je pense que c'est très bien.
Et ensuite,
c'est une bonne démarche. Donc il va venir s'enrichir. Il est jeune comme mon collègue. Donc je pense qu'il n'attendra pas le nombre d'années pour pouvoir mettre en exercice ce qu'il a au fond de lui.
Je vous remercie, messieurs. Donc nous approchons très doucement de la fin de l'émission. Et oui, c'est passé vite. Je vois que vous regardez vos montres. Ça veut dire que vous avez apprécié ce moment. Qu'est-ce que vous appelez de vos voeux, que ce soit la population, que ce soit vos confrères? Le micro est à vous.
Peut-être simplement pour
peut-être faire comprendre vos réticences.
Non, mais pour rassembler les éléments sur lesquels je pense on est totalement en ligne avec Dr Belloni, c'est pédagogie. On ne peut pas se permettre d'avoir le luxe de ne pas être pédagogue au regard de la situation actuelle. Et ne pas opposer les cultures, ne pas opposer les situations et ne pas opposer les méthodes des uns et des autres. Au contraire, moi je crois en la complémentarité. Et on va continuer au centre de vaccination à travailler en tout cas sur ça, et avec bienveillance.
La Covid est venue nous rappeler que le système de santé de la Guyane est fragile. Fragile pourquoi? Parce qu'il n'est pas en adéquation avec ses réalités. Nous sommes en permanence, j'avais écrit, la santé, une maladie chronique en Guyane. Je persiste. Deuxièmement, toutes les mesures qu'on prend ne sont pas adaptées. Donc ce sont des mesures, vous l'avez dit tout à l'heure dans votre introduction, des mesures hexagonales. On a l'impression qu'on est comme Sisyphe. Vous savez, monte avec le rocher, top, top, on redescend. On n'arrive jamais au sommet. On n'arrive jamais, d'ailleurs, vous regardez, il y a toujours des plans de rattrapage. Il n'y a jamais des plans d'investissement. On va rattraper le retard. En permanence, on rattrape le retard. Donc, on est dans une situation de crise qui va venir s'aggraver. Parce que oui, parce qu'on est dans une épidémie, une pandémie, donc un événement mondial. Donc, comment faire? C'est l'occasion pour nous de montrer qu'il faut partir de l'existant et de la réalité. On a parlé de pédagogie, on a parlé de plusieurs cultures. Donc il faut faire le mariage et la symbiose de ce qui vient de la médecine moderne et garder quelques fondements de notre médecine traditionnelle et pouvoir répondre à la problématique en fonction du mode de vie des gens, en fonction de l'environnement géographique, de leur culture et de ce dont ils ont besoin pour avoir une vie meilleure.
Messieurs, je vous remercie. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour votre expertise. Chers auditeurs, chers internautes, vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission sur le Facebook Live et également grâce aux liens des réseaux sociaux de la radio Mayuri Campus sur LinkedIn, Instagram et Twitter. À vendredi prochain, même lieu, même heure, avec de nouveaux experts.
Merci. The bank.
Thank you.